Nous sommes en direct au téléphone avec David Dinota. Merci beaucoup d'être avec nous au téléphone.
Oui, bonjour.
Une première question. Cette enquête autour de Bambi Park, il me semble, utilise une forme très libre. Est-on proche d'une forme fictionnelle ?
Alors, la question de la fiction, elle est effectivement capitale. Quel est l'enjeu de ce texte ? C'est d'essayer de faire ce que j'appellerais du contre-journalisme. C'est-à-dire de prendre des objets qui sont traités par les journalistes, et Dieu sait si les guerres font partie de leur domaine, pour essayer de dévoiler, de montrer, de voir comment fonctionnent les fictions véhiculées par ces mêmes journalistes. Donc, si vous voulez, Bambi Park, c'est un choix qui, pour moi, était très important. D'abord parce que ça me permettait de parler de façon très concrète d'une guerre, une guerre très importante, celle de 99, au Kosovo. Et en même temps, de montrer comment est-ce que, on a agencé toutes sortes de fictions pour essayer d'accréditer une certaine version du réel. Donc, si vous voulez, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'essayer d'aller sur le terrain du journalisme pour faire quelque chose qui est complètement différent du journalisme.
Parce que voilà, c'est vraiment sur la forme que je souhaite vous questionner. Avez-vous mené cette enquête ? L'avez-vous écrite comme un écrivain ?
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un écrivain ? Il y a deux écueils que j'ai voulu éviter. La première, c'est le type qui promène sa sensibilité sur le long d'un paysage ou sur un terrain, et puis qui donne ses impressions. C'est pas du tout une approche romantique. Le deuxième écueil, c'est, je dirais, presque l'approche moralisante, c'est-à-dire l'indignation. Il est évident qu'il s'est passé des choses absolument terribles, mais mon point de vue n'était pas du tout d'appeler le lecteur à prendre une position politique. Donc, si on veut dire par écrivain, quelqu'un qui va sur un terrain qui est, disons, je dirais presque cadenassé par le discours médiatique et qui essaye de faire un travail à partir des mêmes objets qui relèvent d'une logique littéraire, pour autant que la littérature veut dire dévoiler les histoires que les gens se racontent, dévoiler les fictions que les gens véhiculent, alors oui, c'est un travail d'écrivain. Mais vous voyez qu'il y a une sorte de retournement. Je pense que la littérature dévoile les histoires plus qu'elle n'en raconte, alors que ceux qui sont tenus de nous dire le réel racontent davantage d'histoires qu'ils n'en dévoilent.
Parce que lors de votre enquête, vous faites des rencontres, et vous faites parler les personnes que vous rencontrez, vous en faites presque des personnages du coup.
Absolument, absolument. Vous avez tout à fait raison d'insister sur le fait que il s'agit vraiment d'une enquête, je dirais presque objective, entre guillemets, au sens où j'ai vraiment été là-bas, j'ai vraiment interviewé des gens, et je suis rentré dans un dialogue politique avec eux, au sens où ils faisaient partie soit d'un parti précisément, soit ils avaient un point de vue très particulier sur la guerre, etc. Donc là, il y a un travail de base qui est un travail vraiment de... je ne sais pas très bien comment le qualifier, mais enfin, en tout cas, d'arpentage comme ça. Et l'idée d'inventer des personnages n'était pas du tout, pour moi, nécessaire. La seule histoire qui mérite d'être écrite, c'est l'histoire qui permet de traverser toutes les histoires. C'est-à-dire, mon seul problème, et c'est pour ça, si vous voulez, ça répond peut-être de façon plus précise, je m'excuse si je suis un peu confus, mais à la notion d'enquête, c'est quel est le fil minimal permet de raconter sous la forme d'un récit un voyage, mais de telle manière que ce ne soit pas le reflet de la sensibilité, mais plutôt le reflet d'une situation extrêmement complexe qui était celle de la guerre et dans laquelle, évidemment, chaque personne avait sa propre version des faits.
Et est-ce que justement parce que chaque personne a sa propre version des faits, chaque personne arrive avec, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, avec ses fictions et du coup ils racontent leur histoire, mais presque leur histoire fictionnelle, que vous avez fait ce parti pris d'en faire une enquête biaisée, du coup, qui n'en fait pas une enquête objective de journaliste?
Tout à fait. Biaisé est un mot que je revendique vraiment. Je trouve que ça le définit tout à fait bien. Pourquoi? Parce que, au fond, comment est-ce qu'on peut sortir du journalisme tout en traitant de problèmes absolument réels? Eh bien, c'est justement de trouver un biais. C'est-à-dire, le problème est justement de déplacer de façon parfois infime le regard et de trouver le biais qui permet de reposer le même problème, celui de la guerre, mais sous une forme inattendue. Inattendu ne veut pas dire exotique ou faite pour distraire, mais disons d'essayer de déplacer le regard de telle manière que le problème se pose autrement. Par exemple, le fait de s'intéresser à un parc d'attractions, le parc d'attractions que le fils de Milosevic a construit pendant la guerre, en réponse en quelque sorte au bombardement pour montrer aux Serbes qu'ils s'occupaient d'eux, un parc d'attractions pour enfants, j'ai trouvé que c'était un sujet, un objet plus exactement, formidable pour décrire en quelque sorte l'ensemble des tensions ou des histoires dans lesquelles les acteurs rentraient. Et alors, toute la question effectivement est de trouver le biais, l'objet, je dirais presque l'objet biais, qui va vous permettre de poser le même problème, mais d'une manière différente, parce qu'il faut bien dire que dès qu'on rentre dans un discours journalistique, eh bien, les attentes sont extrêmement fixes, et donc les questions deviennent très, très, très pauvres tout de suite.
Parce que j'ai l'impression que vous utilisez ce sujet-là du parc d'attractions Bambi Park un peu comme un mirage. Il y a un effet de mirage, parce qu'à la fois, c'est votre sujet d'enquête, c'est ce pourquoi vous allez en Serbie, et en même temps, quand on lit le livre, il s'agit quand même assez peu de ce parc d'attractions.
C'est vrai que tout tourne autour du contexte. Ce qui est très difficile dans la description d'une guerre, c'est d'arriver à restituer l'ensemble, des enjeux. C'est vrai qu'au fond, le parc est davantage un point symbolique du récit, plutôt que, effectivement, au contenu entier du livre. Comment est-ce que je pouvais parler de Bambi Park sans restituer l'ensemble, des espoirs que l'on a portés dans cette guerre, mais aussi des mensonges considérables, l'OTAN étant quand même une très spécialisée dans ce genre de choses. J'ai dû en quelque sorte élargir le propos. Je ne pouvais pas simplement m'en tenir au parc, parce que je pense que d'une certaine manière, le lecteur n'aurait pas compris pourquoi je m'intéressais à ce parc.
Parce que ce parc d'attractions, on pourrait presque en faire une symbolique, c'est de l'attraction, c'est de la fiction. Et c'est comme si vous en faisiez un angle d'attaque fictionnel.
Oui, un point d'ancrage qui me permet d'ancrer cette enquête d'une façon biaisée, pour reprendre ce terme, par rapport aux questions que l'on se posait et que l'on continue d'une certaine manière de se poser lorsque l'on évoque les guerres que l'Union européenne ou que l'OTAN sont amenées à conduire.
Il y a une antinomie du coup entre un parc d'attractions et cette guerre terrible.
Plutôt qu'une antinomie, je dirais que c'est vrai que d'une certaine manière j'adopte un point de vue qui est, qu'on pourrait qualifier de sceptique. Je pense que la nature a tout à voir avec le scepticisme, mais pas un scepticisme cynique ou un scepticisme qui se désintéresse ou un scepticisme qui s'éloigne de son objet, c'est un scepticisme en quelque sorte actif. C'est-à-dire que c'est vrai que d'une certaine manière, ce parc d'attractions irréalise en quelque sorte le discours très sérieux que les acteurs ont voulu tenir tout au long de ce conflit. Rien n'est plus sérieux que la fiction. Je ne veux pas dire par là que lorsque j'essaie de comprendre la logique des fictions dans lesquelles les acteurs sont rentrés, je voulais dire qu'ils étaient en train de se tromper sur eux-mêmes. Pas du tout. Je pense que rien n'est plus sérieux, que le réel, au fond, n'est rien d'autre qu'une série de fictions, et que les fictions tuent, et que les fictions nous amènent à faire des choses ou à ignorer d'autres choses, et que ça constitue véritablement, je dirais presque, la vraie nature de la guerre. Et je pense qu'il y a un lien très très fort entre la littérature et la description de la guerre, et même si Bambi Park fixe d'une manière sceptique l'ensemble des discours, je suis loin de m'en désintéresser, ou je suis loin de regarder sur cette histoire, de la regarder d'une façon distante ou ironique, mais dans un sens dégagé. Au contraire, j'essaie de construire un scepticisme actif et qui est clair.
Oui, parce que à chaque fois que vous rencontrez une personne qui vous raconte son histoire fictionnelle, en quelque sorte, vous prenez aussi parfois le contre-pied. Enfin, vous dites, oui, mais voilà, cette personne me dit ça, mais c'est pas exact.
Plutôt que c'est pas exact, disons que j'essaie de... Parce que je pense que toutes les personnes étaient exactes dans ce qu'elles m'ont dit. Simplement, j'essaie en tout cas de contraster. j'essaie de contraster avec, avec d'autres rencontres ou d'autres discours, d'autres fictions.
Alors, j'en viens à une question qui me taraude. Du coup, pourquoi votre livre n'est pas un roman? Pourquoi ce n'est pas 100% fictionnel?
Alors, le prochain livre sera véritablement un roman. Bon, peut-être que ça répondra davantage à votre attente. C'est vrai que c'est un travail que, dans mon travail d'écrivain, j'associe presque à... C'est une manière de défricher, en quelque sorte, le paysage. Mais je voudrais encore insister sur le fait que le roman, dans mon esprit, hein, et je crois qu'on est bizarrement plusieurs à essayer de faire la même chose sans s'être concertés, et ça, c'est quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer en ce moment. On est tous en train on est un certain nombre d'écrivains, de façon une coïncidence très, très intéressante, à essayer de construire ce que les Anglais appelaient le non-fictional novel, c'est-à-dire une sorte de roman non-fictionnel. Précisément, si notre but, c'est d'essayer de montrer comment s'agencent les fictions autour de nous, notre roman doit être justement le point non-fictionnel. Et c'est une sorte de tension, un paradoxe, mais que les Américains connaissent bien à travers, par exemple, le nouveau journalisme, qui est un mouvement très intéressant des années 70, c'est-à-dire d'essayer de réinventer le rapport au réel, donc d'une certaine manière une littérature réaliste, mais avec cette caractéristique de ne pas vouloir raconter d'histoire, au fond, de prendre des objets qui sont consacrés par le journalisme pour, en quelque sorte, les déconstruire.
Est-ce que vous pouvez développer un peu, parce que ça c'est absolument passionnant là ce que vous dites. C'est vrai que moi aussi je sens qu'il y a cette mise en place en France autour de plusieurs écrivains qui prennent cette notion de non-fiction américaine. Développez un petit peu.
Alors ça je pense que c'est vraiment le cœur de l'enjeu. Ce qui est très intéressant, c'est que chacun va choisir un objet différent. Vous avez par exemple un auteur comme Philippe Vasset qui va s'intéresser non pas à la guerre elle-même, mais plutôt aux marchands, un journal intime des marchands de canons, donc c'est très intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au fond, il le fait d'une façon qu'on pourrait qualifier comme ça, de façon schématique, de journaliste. C'est en tant que journaliste qu'il s'intéresse à ces objets-là, sauf que c'est pour tenir pour faire un travail qui n'a rien à voir avec le journalisme. Comme pour en montrer toutes les limites, et elles sont nombreuses. La littérature étant tout simplement une forme de liberté. C'est pas autre chose qu'une forme de liberté à l'intérieur des discours institués, et le journalisme institue, assit les problématiques au lieu, en quelque sorte, de les ouvrir. Ce qui est passionnant dans cette histoire, c'est que si vous déconstruisez les discours journalistiques à partir d'objets que les journalistes s'intéressent, eh bien vous tombez sur une nouvelle définition du réel. Et je pense que ce qui est plus intéressant dans ce mouvement qui est en train de se dessiner, c'est tout simplement l'invention d'une nouvelle forme de réalisme. Il y a bien sûr la figure absolument majeure de Balzac, mais on voit bien que d'une certaine manière, on ne peut plus écrire non plus de façon réaliste au sens du 19e siècle, c'est-à-dire en faisant de grandes descriptions sur tous les objets et en essayant de détailler tout absolument. Bon, c'est pas tellement l'enjeu, même si ça s'inscrit dans cette tradition-là. L'enjeu, plutôt, et c'est là où on se retrouve, et c'est très étonnant parce qu'il n'y a pas de discours unitaire par rapport à ça, il n'y a pas de manifeste ou quoi que ce soit, mais il y a cette très grande conscience que la littérature n'est pas là pour distraire le public, n'est pas là pour inventer des histoires de façon à ce qu'ils puissent s'endormir le soir, mais plutôt est là pour pointer les histoires que les gens se racontent. Alors les histoires que les gens se racontent, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine politique, mais ça peut être aussi dans le domaine, disons, pour employer un mot un peu lourd, polémologique, c'est-à-dire dans le domaine des conflits, et personnellement, c'est ce qui m'intéresse le plus.
Eh bien, merci beaucoup, David Dinota, d'avoir été avec nous en direct par téléphone et d'avoir accepté de répondre à mes questions, de réaliser ce sprint final de l'émission de littérature. Merci beaucoup à vous.
D'avoir été un peu confus, j'espère que vous...
Vous étiez absolument très, très clair et j'ai beaucoup apprécié vos réponses. Vous ouvrez des optiques comme ça qui sont très, très intéressantes.
Ben, merci beaucoup, en tout cas.